Gaston et la déclinaison qui va arriver en 2016, je crois qu'il n'est pas encore sorti, si je ne dis pas de bêtises. À ses côtés, nous avons Agnès Marot. Agnès Marot vient de sortir notre programme meilleur position le chat noir. Il y a la couleur de l'eau chez l'Armada, mais on va s'intéresser à un qui s'appelle IRL chez le Gaston. Agnès est auteur aussi éditrice, donc elle a renseigné pas mal de choses à vous dire. À ses côtés, Philippe Warner. Alors, Philippe, vous le connaissez peut-être sous sa casquette de directeur de la collection Pierre Blanche. Collection absolument géniale. Combien de titres? 350 titres en 10 ans. En 10 ans. Voilà. Ça vous pose le bonhomme. Parfois, il y a d'autres loisirs, mais c'est rare. Ouais, voilà. Philippe, en plus de ça, comme c'est un garçon qui a pas mal d'activités, il trouve le temps d'écrire, et notamment une série à mixité féminine qui s'appelle La Serre détective de Dieu, et qui joue avec l'histoire d'une manière assez large, hein, très large, donc on va pouvoir en parler. Et puis à mes côtés, Joanne Elliott, La Lune seule le sait, Fairy, Le Tempester, Martin Gérani, la bibliographie de Joanne est longue en 15 ans. Lui aussi a imaginé pas mal d'univers, donc on va pouvoir en parler. Après tout, on s'est fait un petit tour d'horizon. Alors, on ne pourra pas parler de tous les livres, évidemment, mais autant par auteur, déjà de voir un petit peu quel est le sujet qu'ils ont mis en place, comment est-ce qu'ils les ont mis en place, qu'est-ce qu'ils ont fait. On va pouvoir discuter de tout ça. Peut-être qu'on va commencer par toi, Agnès, qui a itinéré là. Il y a très petit tour autour des jeux vidéo. Est-ce qu'on peut faire un petit spoil là?
Oui, de toute façon, c'est sur la quatrième.
Une de ces héroïnes vit dans un monde de jeux vidéo.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce monde que tu as mis en place et comment est-ce que tu les as mis en place?
Oui, tout à fait. Alors, le principe est très simple en fait, c'est comment est-ce que vous réagiriez si vous découvriez que vous êtes un personnage de jeux vidéo. Et notamment, un personnage des Sims, donc, qui est très proche de votre réalité, et vous découvrez qu'on peut vous forcer à faire des choses sans vous en ayez conscience, qu'on peut vous forcer à aimer des gens. Et qu'on peut manipuler jusqu'à la plus profonde, votre intimité la plus profonde. Donc, ce que j'ai voulu mettre en place, en fait, c'est justement un univers virtuel, mais qui est proche du nôtre, en partant d'un constat qui m'intéresse pas mal dans justement les univers virtuels, c'est que, en fait, tout est possible dans le virtuel. Quand on arrive dans un jeu vidéo, on a toutes les possibilités possibles et imaginables pour se créer un avatar en général, et on commence toujours par créer quelqu'un qui nous ressemble ou qui ressemble à ce qu'on voudrait être. Et donc j'ai vraiment voulu créer voilà, un univers qui va me permettre d'exploiter ce thème-là, cette confrontation entre la réalité et la fiction, le désir de se projeter et en même temps voilà, de vivre, que ce soit un peu nous quand même dans cette virtualité.
Est-ce qu'il y a des limites claires pour l'univers?
Alors, en théorie, tout est possible. En pratique, il y a des limites parce qu'il est utilisé comme une télé-réalité pour un certain nombre de personnes. Et du coup, il faut que ça reste plausible. En fait. Il faut que ça reste, que ça plaise au public. Tout est dans l'audimat, dans le plaisir du jeu, mais aussi de la vision derrière. Donc, la limite est finalement assez forte, même si en théorie on peut tout faire, c'est qu'il faut que ça plaise en fait, tout simplement. On ne peut pas trop s'éloigner de ce qui attend du jeu.
Je voudrais poser la même question à Joanne. Alors, parmi tous les livres, on va rester sur, pour l'instant, le monde virtuel, avec un Gérani, avec un programme qui permet de reconstituer la personnalité d'une personne décédée. Comment est-ce que tu as travaillé pour ce roman spécifiquement?
Alors, je dois remonter dans mes souvenirs, parce que c'est mon premier roman de jeunesse il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Dans le futur et en connectant une petite machine qui sert à collecter les souvenirs des gens et un programme informatique expérimental autour de l'intelligence artificielle, les personnages recréés, créés du moins une créature, je me répète, virtuelle, qui est censée donc se comporter comme Jérémy de qui décède de l'accident stupide au début du livre. Donc là, c'était leur. Ils sont passés à l'époque. L'intelligence virtuelle était un thème autant visité, exploité qu'aujourd'hui dans est-ce qu'un jour nous pourrons nous survivre dans des univers virtuels? Voilà, je n'ai pas la réponse, bien sûr.
C'est un peu une question sur la personnalité et sur ce que nous avons.
Exactement. Est-ce que nous sommes que la somme de nos souvenirs et un logiciel qui nous permet finalement de décoller et de penser? Est-ce que nous sommes plus que ça? Est-ce que, voilà, je n'ai pas la réponse, je pose la question comme font les auteurs de science-fiction.
On va continuer un petit peu dans le jardin, on va faire des points avec Christopher. Notamment l'intéressant, qui a peut-être un lieu un peu particulier, est-ce qu'il peut nous expliquer comment est-ce qu'il a mis son univers en place?
Novels attract some, novels attract by themselves. Kind of conductor rather than player, and I do make them up as I go along, so I don't enter a novel with a plan. The adjacent location is identical to the other books in this respect. I began with the thought of a Muslim Islamic Republic being set up in Great Britain. This turned out to be quite a controversial idea. Identify the Islamic faith with the regime in Saudi Arabia, which is cruel, medieval, and irrational. intéressant en fait. L'adjacent est un éclairage différent, une vision différente sur la mécanique quantique.
On va passer la parole à Philippe pour toi avec ça. Parlons un petit peu donc de ta série La Star des Écrits des Dieux. Comment est-ce que vous construisez un petit peu les univers de cette série avec Sylvie?
Le chronique, je l'ai rencontré un peu comme je crois que c'est pour Jean-Lapierre, sans le savoir, c'était à très longtemps. C'était un temps que moins de 40 ans, on va connaître un sketch de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, qui commençait qu'il y avait un Jimmy qui disait « Ah, si nous, les sudistes, on était plus nombreux, vous, les nordistes, la battez. » Comme je suis sudiste, comme les nordistes nous ont battus, ça m'a toujours tourné dans la tête. Et je me suis dit « Qu'est-ce qui aurait pu se passer, méthode, si à la tête de Muriel, entre 5 et quelques, les sudistes avaient gagné ?» Parce qu'aujourd'hui, là, je vous parlerai en occitan et pas en français. Et donc, le chronique, moi, a toujours resté dans ma tête, hein, toujours resté quelque chose dans ma tête, parce que j'étais passionné d'histoire. Et toujours, je me suis dit, et si à ce moment-là, ça avait été au contraire. Donc, avec Sylvie, un jour, on s'est dit, on va écrire quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais? Alors, moi, j'aimerais écrire sur l'Égypte. J'étais deux passionnés d'Égypte. Et on s'est rendu compte que Christophe Jacques avait écrit tous les personnages. Donc, c'est déjà fini, on l'oublie. Qu'est-ce que tu aimerais? Moi, j'aimerais réécrire un polar comme dans les années 30 américaines. Si on écrivait un polar en Égypte dans les années 30, hein. Ça ne va pas trop. Et donc, c'est là qu'on est parti, on a dit on va créer une Égypte totalement iconique, hein. Mais qui ressemble à l'Égypte des années 30. Hein. C'est-à-dire qu'on a gardé à peu près tout l'aspect technique, hein, mais au lieu qu'il y ait trois pyramides de Sphinx, il y en a 9, parce que c'est un pharaon qui domine. Et on s'est dit, pour aller plus loin dans notre monde différent, mais on va garder les dieux. Parce que les dieux, ce sont les dieux de l'époque, ce sont des personnages extraordinaires. C'est-à-dire pour nous, les dieux de l'époque, c'est les people d'aujourd'hui. Et vraiment, ce sont des personnages qui sont à la fois humains, méchants, qui détestent les hommes, et donc on va s'en servir pour notre histoire. Quand on a pris cette Égypte de 1930 qui ressemble à la vraie Égypte, on a gardé par exemple les voitures, on a gardé les avions, on a gardé l'hôtel et tout ça, mais c'est un pharaon qui domine, et les dieux sont partis par là. Donc c'est à la fois une chronique. Il y a un monde différent parce que les dieux vivent parmi les humains et donc les dieux ils obligent les humains à faire des choses qu'ils ne veulent pas. Et pour nous, les dieux, plus les dieux ont des adorateurs, plus ils sont forts. Et c'est une vraie guerre qui s'y entre eux. Et c'est ce qu'on relancère, là, le détective des dieux, et tous les dieux qui vont prendre plein la figure, qui vont avoir du whisky comme le détective des années 30. Et pour nous, c'est toujours ça, c'est du chronique, c'est de mettre un monde totalement différent et qui ressemble franchement à notre.
C'est un plaisir particulier du coup de réinventer un petit peu l'histoire.
Ah oui, c'est, pour moi c'est un plaisir de réinventer l'histoire, mais c'est très dur de réinventer l'histoire. On ne peut pas réinventer 3000 ans d'histoire. Je cherche à se relire par écrire 3000 ans d'histoire, toutes les civilisations qui existent. Donc c'est vrai qu'on a gardé, nos histoires se passent soit à l'Égypte, soit à Rome, on a gardé des personnages, on a gardé des dictats, mais on n'a pas refait l'histoire. Parce que là, on se partait dans cette réalité des promostures. Et en plus, c'est très difficile de réinventer l'histoire. C'est-à-dire que si Napoléon avait gagné à Waterloo, qu'est-ce qui serait passé? Personne ne peut le dire. On peut inventer un peu, il y en a beaucoup d'auteurs qui l'ont fait, qui sont mis dans la peau de Napoléon, mais c'est toujours observé. C'est-à-dire que si jamais on avait gagné le Sud, on avait gagné la bataille de Muret, qu'est-ce qui serait passé plus tard? Parce qu'on peut, on peut imaginer, moi j'aimerais bien imaginer ça, mais c'est très très compliqué. Donc on est resté vraiment sur les petites, sur les nouvelles de policiers, de détectives, qui fait des années. Comme l'étaient les employés américains des années 30. Mais avec les dieux, que ce soit le producteur de l'Hollywood, si, si c'est eux qui vont aller faire des enquêtes. Mais on est tourné, c'est quand même un monde qui existe, et on a quand même inventé ce monde. Avec des erreurs peut-être, mais ça manque. On est des écrivains, des auteurs. Et la réalité des fois, ça manque.
C'est le plaisir de jouer avec l'histoire, Joanne, la chose sur la question pour la lecture de ça.
Oui, alors, et avec Jérémy, les mêmes limites que. Si on voulait réécrire totalement à partir de n'importe quel changement, d'ailleurs historique, mineur ou majeur, je pense qu'on aboutirait à des mondes qui sont tellement étranges, pour nous, tellement différents, qui seraient irraffrontables. Donc on est obligé, on est obligé de garder des figures comme on veut toujours. Voilà. Donc, pour mon premier roman qui était une chronique, une seule le sait, pardon, j'ai gardé des figures historiques, Napoléon III, mais il est toujours au pouvoir, il a gagné la et puis il se transforme plus ou moins en machine humaine aussi. Quand ça devient vu, il faut le maintenir en forme. J'ai utilisé Jules Verne comme héros principal du livre aussi, de manière à ce que on puisse s'identifier facilement à une figure connue. Mais je ne me suis pas privé, alors siècle, malgré tout, qui ressemble au mari de l'époque, d'ajouter tout un tas d'éléments science-fictifs, des extraterrestres qui ont débarqué en 1889 à la grande exposition universelle. Je ne crois pas sur les humains, on cache tellement de choses, je le dis, qu'on ne sait jamais. Et voilà. Donc, c'est une chronique un petit peu bâtard, la lune seule, le sens de sens. C'est une chronique, ce n'est pas notre vrai passé, mais c'est aussi un hommage à un jeu avec la science-fiction d'antan, avec le pulp. Voilà, c'est un petit peu mélange de toutes mes influences de cette époque-là.
Une question pour vous, Christophe, je pense que dans le festival, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, là, pour le coup, effectivement, vous jouez par rapport avec l'histoire.
I'm interested I'm sorry, Agnes is writing about gaming and that Philippe mentioned that it's about gaming and Johan used the word playing. I've often discussed Euclidean and alternative worlds in the past, and this always comes up that it's a way of playing.
Je trouve ça intéressant le choix des mots. Agnès parle de jeux vidéo, Philippe et Johan ont parlé de jeux avec l'histoire et l'amusement. Et en fait, c'est quelque chose qui revient fréquemment quand on discute de l'uchronie. C'est la notion d'amusement, la notion de jeu mental.
To respond to something that was said earlier about a book could be written about the character who discovers he's a sim in the game that you were talking about. This reminded me of something that was written a few years ago by the American writer Joanna Russ. She came up with an academic theory that materials. And I was saying immortal. My friend has contacted me.
Qui était dit avant un sujet qui était demandé par Agnès sur le fait qu'on a un personnage qui découvre qui est un personnage dans une vidéo. En fait, ça me rappelle un article qui a été écrit par l'universitaire John Harris, qui a fait un article qui s'appelle donc The Wearing Out of Your Materials, ce qui pourrait se traduire par de l'usure progressive des matériaux des genres littéraires.
She said that science fiction has three ages. The first is the age of discovery, when an idea is first suggested by one writer or several writers, and she used robotics as an example, so that you get books like R.U.R., which is the original book by Chapin about the robots, and the word was, yes, and robot is actually the Czech word for worker. Then you've got the second stage, where she says this is the age of fulfillment, where all the possibilities of the idea are explored, so that you get, say, Asimov's three laws of robotics and the things that robots can be made to do, maybe very small or very powerful, and so forth. And then she gets to the third age, which she calls the age of decadence. And this is the age in which robots become funny, or they develop annoying squeaks, or they have to be fired with coal.
Dans cet article, pour la science-fiction comme exemple, elle dit que la science-fiction traverse trois âges. Le premier est l'âge de la découverte, où l'on découvre des idées ou des notions pour la première fois de la part d'un auteur ou plusieurs. Elle prend l'exemple de la robotique, par exemple. Donc, le thème pour deviennent drôles, amusants, ils ont des caractéristiques un peu comiques, il faut les alimenter au charbon, etc.
Hitchhiker's Guide to the Galaxy, we get R2-D2 in Star Wars, and you get the idea, I'm sure. I was quite interested by what Adam said about the character, because this is the story in which a character wakes up to realize he's a robot, comes at the end of the second age, it's a sort of transitional stage before the age of decadence, and so I begin to wonder if the whole idea of gaming might be entering a technical phase in which it will just become very funny. And I know some of them are funny anyway, but the whole point is that they're funny.
Et dans le troisième âge, par exemple, de la décadence pour reprendre les objets robotiques, vous obtenez des personnages comme Marvin, Android, Paranoïde dans le Disney Star Galactique, R2-D2, etc. Enfin, vous voyez l'idée. Et c'est intéressant quand on a dit ça parle d'un personnage qui se réveille et qui, en un sens, se rend compte qu'il est un robot. C'est finalement une histoire qu'on pourrait placer à la fin du deuxième âge. C'est une histoire de transition. Et ça me pose des questions sur l'habitude du gaming, du jeu. Est-ce que le jeu serait-il en train de. La notion de jeu vidéo de façon générale, la population des gamers, est-ce que ces notions-là seraient-ils en train d'arriver à son âge de décadence et est-ce que le jeu devient amusant?
I'll give you a short response when you asked about the separation. The reason I mention playing is because the separation is a very serious novel. It's actually about the process of alteration. Ukraine is essentially about history. And it's basically saying if history changed slightly, how would the present be? And I looked at a sequence of events in the Second World War, basically a 6-month period at the end of 1940 and the beginning of 1941, where for a brief period it was possible for Germany and Britain to forge a peace, and in reality it didn't happen. And I wanted to see what would have happened if that's been tried. In fact, I found that there was a kind of convergence of history that I came to the conclusion in the end that the Nazi system was weak and corrupt. It was always violent and corrupt. It was always brutal and corrupt. But what people didn't realize was it was a weak regime unless it was kept in power basically by violence. And therefore, in the end, it was going to fail. And that by 2016, Nazism would be as much in the past as it is now, and irrespective of the outcome of the war.
Donc, je vous ai alors fait une réponse avant, mais donc vous avez posé des questions sur la séparation. C'est pour ça que je voudrais revenir sur la notion de jeu. Enfin, la séparation, c'est un roman assez sérieux qui parle de l'altération, de l'alternation de l'histoire. Le chronique, on peut parler de l'histoire, elle se pose souvent la question si l'histoire avait changé, à quoi ressemblerait le présent. Je m'intéresse dans la séparation à une séquence d'événements particulière donc pendant la Seconde Guerre mondiale, une séquence d'environ 6 mois qui est entre la fin de 1940 et le début de 1941. C'est une brève période où l'Allemagne et la Grande-Bretagne auraient pu forger une paix ensemble. Et du coup, je me pose la question, que serait-il arrivé si ça avait été essayé? Et je me suis rendu compte que l'histoire, en fait, tend à converger. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que les nazis avaient toujours été un régime faible, corrompu, et brutal. Est-ce que les gens ne se sont pas compte généralement, c'est que ça a toujours été donc ce genre de régime, c'est surtout, en fait un régime faible qui ne restait au pouvoir que à travers la violence. Et en fait, il se serait écroulé quoi qu'il arrive, et je suis convaincu que même si l'histoire avait été différente, aujourd'hui en 2016, ils appartiendraient autant au passé que ce qu'ils le sont dans notre monde et dans notre réalité.
Ce que j'aimerais savoir en fait, puisqu'on parle de création militaire alternative en parallèle, c'est la question des intentions. On a parlé de jeu et on a bien compris que de temps en temps il y a un plaisir intellectuel à créer, à jouer avec l'histoire, à créer des vulgarités. Mais à chaque fois il y a souvent une interrogation qui va plus loin sur notre réalité, sur notre monde, sur notre histoire. Qu'est-ce qui préside le mouvement dans la création d'une histoire, dans la création d'un média alternatif? Est-ce que c'est l'intention de parler d'un sujet? Ou est-ce que c'est juste le plaisir de la création comme un mélange? C'est toujours la première question. Merci.
j'adore. En fait, moi, ce qui m'intéresse dans tous ces jeux, que ce soit virtuel ou électronique, j'en ai pas écrit, mais toutes ces réalités alternatives, c'est le et si. En fait, et si on prenait quelque chose qui existe vraiment, mais changer un petit peu, qu'est-ce qui se passerait? En fait, pour moi, c'est une façon de parler de la société, de notre société, en mettant en avant un point en particulier qui me frappe, qui me fait réfléchir. Donc, dans IRL, ça va être justement l'hyperconnexion, espionnage de vie privée, le voyeurisme avec la télé-réalité. Dans notre programme meilleur qu'on évoquait tout à l'heure, ça va être plutôt la séparation entre les arts et les sciences et entre les hommes et les femmes, donc partir d'un cliché et le pousser jusqu'au bout et me dire, et si vraiment on allait jusqu'au bout de cette idée, si on poursuit sur cette lancée jusqu'à l'exacerber au maximum, qu'est-ce que ça donnerait? Donc pour moi, c'est vraiment à la fois joué, évidemment, mais c'est pour parler de notre société, pour ramener les choses à notre univers.
Une question pour vous trois. C'est une semaine lancée.
Oui, pour moi, c'est uniquement du plaisir. Il n'y a que la serre, c'est uniquement, pour moi, pour Sylvie et moi, c'est uniquement des aventures. C'est uniquement le film qui vole pour de Roger Rabbit. J'ai encore des références pour le moins de 40 ans. Je suis désolé. Donc, c'est vraiment uniquement du plaisir. Mélanger vraiment ce monde qui existe des années 30, et du coup, il nous permet cette liberté d'inventer ce que l'on veut en plus. C'est une voie du plaisir. C'est-à-dire que les deux pour nous représentent les personnages aux bandes dessinées. Il y a des actions où c'est vraiment de Bugs Bunny. C'est des courses poursuites. C'est notre détective qui est passé à tabac. Il boit du whisky, comme tous les détectives qui se respectent américains. Donc, pour nous, ça, la seule chose qui transparaît dans nos romans, mais ça vous donne rendez-vous demain à 19h18, c'est la religion. C'est demain, je suis désolé, c'est la religion demain. Mais non, c'est vraiment ce qui nous a passionné, c'est et si les dieux étaient vraiment parmi nous. C'est la seule question vraiment qu'on s'est posée. Tout le reste, c'est du roman policier, tout le reste, c'est l'aventure, c'est du milieu d'action, c'est du milieu de Roger Rabbit. On n'a pas été plus loin, on n'a pas changé le monde, on n'a pas changé, on n'a pas cherché à se dire et si. Une fois, non, pourtant j'aurais aimé. Mais non, là, ce coup-ci, on n'a pas fait de SI. On est resté vraiment dans l'aventure, dans le roman policier classique, avec la personne qui fait l'enquête, avec le policier corrompu, avec la femme fatale, avec tout ce qu'il y a là, mais avec des pharaons, avec des dieux, avec des romains, avec des égyptiens. Et c'est vraiment le plaisir, et c'est cette liberté que Conny nous a permis, cette liberté de ne pas rester enfermé dans un monde que tout le monde connaît. Comme le disait les joueurs, on a quand même gardé les choses que le lecteur connaît. Ça, c'est obligatoire, on ne peut pas se préventer. Mais on est resté vraiment ce plaisir, et le Conny nous a apporté cette liberté.
Alors, pour ma part, c'est les deux. Et ça dépend des projets, voilà, quand je porte faire ma synthèse, ça tombe bien, on a des cours de rang, dans ce temps-là. Bon, par exemple, là, une seule le sait, c'est clairement uniquement le jeu, le plaisir. Parce que d'ailleurs, il y a une très large part d'énormité, d'improbabilité, vraiment, revendiquée, assumée dans ce moment. Et puis, en fait, ça a donné lieu à deux suites, et je me suis aperçu que plus j'avançais dans les suites, donc, tout dans le côté désaxé par rapport à l'histoire, quand même, le petit côté de Roger Rabbit aussi, que l'on revendique aussi, un peu les références. Le deuxième volet, quand même, s'appelle La Lune n'est pas pour nous, se passe cette fois-ci, alors c'est le même univers de base, mais on est dans les années 30, en Europe, et là, j'ai commencé à me poser des questions sur la montée du fascisme, donc il y a un petit côté sérieux qui commence à apparaître depuis les interrogations. Et puis, par exemple, dans un projet de livre, sur le small.
la science-fiction est une littérature distrayante et elle distrait d'une manière qui a de la valeur et qui est unique. 50% d'un roman de science-fiction, c'est intéressant parce qu'il y a une histoire qui se passe et qu'a priori vous allez avoir du plaisir à lire. 50% c'est parce que vous allez trouver dedans des idées que la plupart des gens n'ont pas eues avant. Et si vous sortez de la lecture d'un roman de science-fiction, et ben, normalement vous allez passer un moment parce que vous avez eu une histoire intéressante, mais aussi vous allez en retirer des idées, vous allez vous dire c'était bien, mais en même temps c'était intéressant. Par exemple, ces 5-10 dernières années, je lis en gros beaucoup de choses sur le réchauffement global. Moi, j'aimerais dire que je suis familiarisé avec cette idée depuis les années 60, parce qu'on la trouvait dans la science-fiction et ça faisait partie des propos de la science-fiction à cette époque. Les questions de pollution, de surpopulation et même l'immigration de masse avec les coûts qu'on voit commencer à arriver, ben, la science-fiction en parlait déjà dans les années 60.
Should ask him or herself. The first one Agnes mentioned is the key question to science fiction. It's the one on which the whole thing depends. What if? I wonder what would happen if. But there are two more questions which are just as important and never really aired in open. The second one is yes, but does it matter? In other words, is it serious? Is it something which might interest other people? Comes in as the producer of the work. Yes, but would it matter to me? What would happen if? Would it matter? Does it matter to me? If those three questions can be answered, then you have the basis for writing science fiction either or fantastic or fantasy or any kind of literature which deals with the fantastic. Those are the key questions. Great that you answered them. I haven't contributed too much on the yet.
Il y a trois questions que tout auteur de science-fiction devrait se poser à lui-même. La première, c'est la plus importante, c'est ce sur quoi repose tout, on en a déjà parlé, c'est et s'il se passait telle chose. Les deux autres questions sont tout aussi importantes, en général, elles ne sont pas exprimées, en tout cas clairement. La deuxième, c'est d'accord, mais est-ce que ça a de l'importance? C'est-à-dire, sous-entendu, est-ce que c'est sérieux au sens, est-ce que ça peut être intéressant pour quelqu'un d'autre? Est-ce que ça compte? Et la troisième, c'est la question qu'on se pose le plus et qui concerne le plus l'écrivain en tant que producteur du travail. Donc la question, c'est d'accord, mais est-ce que ça aurait de l'importance pour moi? Si on se pose ces trois questions et qu'on y répond surtout, eh bien, on a la base de l'association du fantastique, de la fantasy, etc. Enfin bref, de toute œuvre d'imaginaire qui a une base saine.
Essayer de faire presque un univers parfait, dans notre point de meilleur, avec l'idée d'un nouvel univers entre science et art. Est-ce que tu peux nous procéder cet univers rapidement, cette sorte d'utopie qu'on peut l'appeler l'utopie?
Oui, en fait, notre point de meilleur, c'est un petit peu particulier parce que c'est une préquelle, c'est-à-dire que je l'écris après un autre roman qui était à l'origine un one shot, qui s'appelle De l'autre côté du mur, et dans lequel je décrivais une société dystopique. Donc, qui était une société très fermée sur elle-même et qui vivait sous une sorte de dictature du bonheur. Moi, pour un meilleur, c'est comment cette société a été créée. Donc, ce qui m'intéressait pour moi, c'était de montrer que cette société qui est atroce, elle a été créée avec les meilleures intentions du monde. C'était quelqu'un qui voulait vraiment créer un meilleur, qui a vu que son monde était en train de partir en vrille parce que ils étaient en train de séparer complètement la science et les arts, vraiment de faire des villes séparées, de séparer les couples qui étaient ensemble, etc. Il y avait une guerre qui était sur le point d'éclater. Et lui, il a dit non, moi je ne veux pas ça, je veux créer une autre société. Donc il est parti avec un certain nombre de gens qui étaient comme lui. Il a créé une société où il voulait justement faire un utopie, un meilleur, sauf qu'il s'est planté dans les grandes largeurs. En fait, il a créé exactement l'inverse de ce qu'il voulait faire. Le projet lui a échappé finalement.
Est-ce que ça a partie de nous un peu spoiler, mais nous créer une grande base de l'utopie, le cours de l'utopie?
Oui. Du coup, le principe vraiment de cette société, c'est que les femmes et les hommes sont complètement séparés, elles n'ont même pas connaissance. Sophie. Et du coup, pour moi, c'est comme je disais tout à l'heure, le Etsy, ils m'ont poussé les choses à leur faire un petit pour montrer que ça ne marche pas finalement. C'est mon principe, c'est une utopie, mais c'est le principe des utopies, c'est que ça ne marche pas. C'est un peu triste, mais.
Ce sera la dernière question que j'ai à la place. Que vous vous comptez masculin. Vous pourriez imaginer les utopies. On a plutôt parlé de monde, souvent assez noir, souvent assez sombre.
I was at a conference in France several years ago, and I discovered a new kind of hell, which was four French academics holding microphones.
J'étais en conférence en France il y a quelques années, et j'ai trouvé une nouvelle sorte d'enfer, et celui-ci est constitué de toute une bande d'universitaires français devant des micros.
Est-ce que tu es capable?
En revue de tout ce que j'écris, je perçois qu'il n'y a jamais eu d'utopie. Je pense que la réponse est elle-même, c'est que je ne m'en suis jamais senti capable en étant en capacité ou parce que je ne savais pas quoi, je ne saurais pas quoi raconter dans le cadre d'une utopie. Mais voilà, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes, aucun de mes romans lointains ne donne une bonne étude. Donc, je crois que je ne suis pas capable de l'imaginer. Pareil.
Non, c'est vrai que j'avais fait beaucoup de choses. Je suis même capable d'imaginer l'utopie, peut-être parce que je suis trop terre à terre, parce que je vis trop dans notre monde, parce que par mon métier, je vis toujours dans le milieu du monde. Donc j'avoue que dans mon imagination, je peux imaginer beaucoup de choses, j'en imagine beaucoup, mais je n'ai jamais imaginé l'utopie. Si je peux dire en quelques secondes que si vous aimez la littérature classique, si vous aimez les chroniques, vous avez sur le site du GSR, vous avez un livre de Bertrand Cambès sur les chroniques. Je tiens à le signaler parce que l'autre métier est là. Il faut tout savoir sur la chronique tous les deux, j'ai oublié, non ? Dites-moi-le. Voilà, c'est pour ça. Alors, si vous voulez tout savoir, parce que quelqu'un s'est chronique, ça aurait été mérité d'être là, parce que là, on les met absolument sur le jeu. Donc, c'est bien à dire ça. Et les tombes, non. Parce que quand on écrit, on les tombe.
Philippe, je ne sais plus rien, mais t'as le droit.
Je n'ai pas à leur dire. You champion the socialists, it's really tough. The, a lot of utopian novels were written in the 19th century. And basically, the writer would come up with an idea of the perfect society, and then an outsider, usually a man from the outworld or a woman, and then it's shown round. It's shown how things are. And it's really dull. And I always thought that the only times I've ever been happy have been when things are complex and challenging and interesting, and you know, the life is divergent. Life is most enjoyed when you experience divergence.
Le problème avec la littérature utopique, c'est qu'en gros, elle est barbante. La plupart des romans utopiques datent du 19e siècle. Il y a cet auteur qui a l'idée de société parfaite. En fait, l'histoire, c'est que principalement, on a un étranger, quelqu'un d'extérieur, un homme ou une femme, typiquement quelqu'un qui vient de notre monde, qui débarque dans cette utopie. Et en fait, ça se résume à un guide touristique. Et donc, le dialogue qui montre à ce personnage la façon dont les choses fonctionnent, c'est très marrant. Moi, je m'amuse quand les choses deviennent complexes, quand il y a des défis, c'est amusant. Donc, c'est-à-dire s'il y a de la divergence. Et en fait, la vie, c'est la divergence. La vie est la plus agréable quand on vit la divergence. La différence, c'est que ça nous pousse justement à vivre des choses nouvelles.
The final thing to say is that utopia is based on a root. It means no place. It's often misunderstood that it means a good place or happy place, which would be utopia spelled EU rather than U. And I think the idea of no place is fine. I'm happy with that.
Non, ce que je veux dire, c'est que le mot utopie, alors, since, c'est un signe, ça veut dire pas d'endroit. Utopos, mais c'est l'appréciation, pas d'endroit. Souvent, ça veut dire bon endroit, mais en fait, c'est pas ça du tout. Si c'était bon endroit, ça serait utopie. Donc, moi, le fait que ce ne soit pas d'endroit, un endroit qui n'existe pas, moi, ça me va.
Il est temps des questions. Est-ce que quelqu'un a une question sur le sujet ou un de nos auteurs? C'est l'heure de l'apéro.
d'être venu. Vous pouvez la trouver tout de suite.